Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse,
hashtag
portrait chinois
et bien sûr
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro 11 de la troisième saison de Loz Actuali et bonjour à toute l'équipe, bonjour Léa.
Salut.
Bonjour Eric.
Bonjour les gens.
Bonjour Emilien.
Bonjour à tous.
Voilà, nouvelle équipe, hein, nouvelle recomposition de l'équipe. Je vous abandonnerai tout à l'heure, mais voilà, c'est pas grave, ça sera Léa qui prendra la suite. Et on accueille notre invité du jour, Philippe Kogoluen. Bonjour.
Bonjour.
Donc pour l'association Enemy BD, et on va parler aujourd'hui des 48 heures de la BD. Donc évidemment, il y aura aussi des chroniques. Et Eric, une question.
Non, moi au départ, en fait, je voulais vous faire un cours sur le Brexit.
Oui.
Mais je suis pas tout à fait calé encore. J'ai encore quelques approches que j'arrive pas. Donc je vais faire autre chose.
D'accord. Léa, pour toi?
Oui, moi je suis très calée sur le féminisme, donc je continue dans mon attitude bobo-gauchiste. Voilà, j'adore.
Très bien, et donc on retrouvera bien évidemment le portrait chinois, l'info inutile d'Emilien, voilà, et puis la revue de presse en fin d'émission. Allez, c'est parti.
Loz Actuali.
Alors, on commence cette émission avec notre invité, Philippe Kogoluen, Enemy BD. Alors, peut-être deux mots. Qui êtes-vous, Philippe Kogoluen? Un passé d'inspecteur de l'éducation nationale?
Disons un passé éducatif.
Éducatif.
Voilà, ouais. Un passé de la relation à l'autre, hein, de la passion des autres, et de la passion des autres et aussi de la passion du territoire. Et c'est vrai que la BD, c'est un moyen de relier les deux, parce que c'est souvent un univers, des personnages, et l'univers, c'est un territoire, et les personnages, ce sont des gens qu'on a le plaisir de rencontrer, ici, pendant demi-heure, trois quarts d'heure dans une BD, mais dans une collection, souvent plus souvent, quoi, plus longtemps.
Et donc un passé éducatif, aussi des implications justement dans ce milieu éducatif, dans des structures autour de l'école.
Oui, j'ai eu la chance d'effectuer la totalité de mon parcours professionnel effectivement dans le monde de l'éducation, mais en Lozéen, ce qui est une particularité presque nationale, j'allais dire, et de changer assez régulièrement, tous les 6-7 ans en fait, de fonction. Donc ça m'a permis d'être à la fois dans la fonction institutionnelle face à des élèves, puis ensuite avec des enseignants. Mais ça m'a permis aussi de goûter au plaisir du monde associatif, de l'éducation populaire. J'ai été impliqué à la Ligue de l'enseignement, à la Fédération des œuvres laïques de la Lozère à l'époque pour gérer la structure d'accueil du Moulin de la Farelle. Et puis on a créé Bec de Jeu. Et puis aujourd'hui, je suis encore impliqué dans le tissu associatif à travers les pupilles d'enseignement public et notamment Enemy BD. Donc, un parcours intéressant, parce qu'un parcours, justement, permettant d'aller un peu vers les autres et de se rendre compte que, dans ce département, la richesse est partout.
Bon, voilà, ça, c'était la présentation un petit peu plus de Philippe Kogoluen. On va parler maintenant un peu plus d'Enemy BD. Alors, l'association, quelles sont ses activités? Pourquoi elle a été créée? À quand ça remonte?
Ben ça remonte à loin, ça remonte à 2007-2008. C'était d'abord la passion médiévale qui avait saisi un certain nombre d'acteurs du territoire à Saint-Trémiol, qui s'est traduit par une compagnie qui s'appelait la Compagnie Burlatine, donc passionnée par le médiéval, le théâtre, les mises en événement. Et dans cette compagnie, petit groupe, comme c'est souvent le cas, de passionnés de BD, qui a créé donc le festival qui s'appelait alors... le festival de la BD médiévale, avec une thématique très spécifique, hein, l'heroic fantasy. Ça a tenu pendant 3-4 ans, et puis il y a eu un petit creux en 2011. Et en 2012, l'équipe que nous sommes aujourd'hui, on a pris le relais. Et assez rapidement, on a ouvert. On ne s'est pas contenté de l'heroic fantasy, qui était d'ailleurs une thématique qui commençait à baisser un petit peu. Et on a essayé, chaque fois que faire se peut, d'aller chercher ce qui permettait à la BD de montrer qu'elle était dynamique et créative, innovante. Et donc aujourd'hui, on accueille bien sûr des auteurs indépendants, des éditeurs alternatifs, et on va chercher ce qui fait que la BD nous ouvre d'autres portes, notamment le roman graphique, la partie documentaire, le lien avec la littérature, des pistes que le grand public ne connaît pas toujours, mais qui offrent finalement de la BD une image bien plus variée que celle qu'on pourrait avoir avec nos cultures antérieures du type franco-belge, Tintin, j'en passe et les meilleurs.
Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans la BD ?
Cette variété, c'est-à-dire que autant je prends plaisir à lire une BD franco-belge en demi-heure, autant si j'ai un sujet qui m'intéresse, eh bien, je vais me plonger dans la revue dessinée, qui est mensuelle, qui, en 120 pages, permet de couvrir 4 ou 5 sujets de façon très profonde, à la fois avec une dimension graphique, donc le plaisir toujours du trait, mais aussi derrière des dossiers, du pour en savoir plus, donc de la connaissance, du partage. Et puis, bien sûr, après, on commence aussi à trouver, c'est ça qui est intéressant, des thématiques sociales qui sont traitées en BD et sur lesquelles la réflexion peut être partagée assez facilement avec d'autres lecteurs. C'est ce qu'on a, nous, au niveau de l'association, un petit cercle de lecture mensuel où on se confronte un peu comme ça, à la fois sur le plaisir de lire, mais aussi sur le plaisir des idées, parce que on est toujours dans le tissu associatif riche d'idées, quoi.
Donc c'est surtout l'écriture qui vous plaît ou où il y a le dessin à une part importante?
Ça, c'est la question centrale du lecteur de BD. Par quoi est-on attiré en premier? Moi, je suis un amoureux du graphisme. Donc effectivement, c'est d'abord le dessin, la couleur. J'aime la couleur directe. Il y en a de moins en moins, hélas. On en parlera si vous voulez, puisque cette année, on travaille sur une belle expo pour Patrick Jussomme, qui était un des derniers artistes de la couleur directe. Mais donc c'est le dessin, l'image, l'illustration qui m'attire en premier. Mais sachant qu'une bonne BD, on le sait au bout de 5-6 pages, si on y rentrait dedans, c'est qu'il y a un vrai scénario, il y a une belle histoire, on s'est laissé prendre, et là, on est dans le monde de la BD au sens le plus noble du terme. Si ça décolle pas au bout de 5-10 pages, sachant qu'une BD, c'est souvent à minima 40 pages, eh ben, on a fait le mauvais choix, on a un joli graphisme, mais on s'embête un peu à la lecture. Voilà.
On associe souvent les BD aux enfants, à une lecture un petit peu facile. Vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez que justement il y a beaucoup plus à offrir au niveau BD ?
Alors oui et non. Oui, parce que baignant dans le milieu éducatif, comme me le faisait rappeler tout à l'heure Guillaume, j'ai pu permettre à nombre d'enfants de découvrir grâce à ça la lecture ou de s'appuyer sur ça pour rentrer dans le monde de la lecture. Et certains témoignages me restent encore en tête de gamins dyslexiques qui me disaient, tu vois, moi quand je lis un livre où il n'y a que du texte, j'arrive au milieu de la page et je ne me souviens plus du début. Et ça m'embête parce que du coup, je m'arrête. Alors que quand je lis une BD, si je m'arrête au milieu de la page, je regarde les illustrations et je continue. Donc ça, c'est quand même un point d'appui extraordinaire. Donc oui, effectivement, la BD est destinée d'abord à une lecture facile. Mais non, ça ne se contente pas, par contre, de traiter de façon légère des sujets un peu marrants qui seraient abordés de façon naïve pour des publics enfants. Je le disais à l'instant.
Vous proposez des BD pour tout public ?
Absolument. Depuis 2012, notre pari, c'est bien celui-là. C'est tout ce qui se fait aujourd'hui en BD nous intéresse. Là, sur les 48 heures de la BD, on le verra. La typologie est large. Le manga sera présent autant que le jeunesse, l'heroic fantasy, le franco-belge et d'autres styles. Parce que c'est dans cette diversité que chacun peut trouver son compte. Quand on croise les gens au moment du festival que nous faisons fin juin, on a à peu près 4000 passages, on a vraiment toutes sortes de gens et tout le plaisir est bien là. Parce que chacun va y trouver vraiment ce qui l'intéresse au moment où ça l'intéresse. Et peut-être bien que 3 mois, 6 mois après, 2 ans après, il ira autre chose. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis rentré en BD quand j'étais gamin, je levais un peu le pied, j'y suis revenu il y a une quinzaine d'années, et pas du tout par le même bout. Aujourd'hui, je suis plutôt sur le roman graphique ou plutôt sur la partie BD sociale. Mais si j'ai une belle BD, je me fais plaisir aussi.
Alors, donc on a dit les activités d'Enibi BD, il y a ce cercle de lecture et ces discussions entre lecteurs.
Et puis après, c'est tout
donc notre... le festival.
Ouais, bien sûr. Alors le festival, c'est la partie visible de l'iceberg, j'allais dire, hein, puisque ça fait maintenant 12 ans qu'il existe, ce sera donc sa 12e édition. Mais petit à petit, on a construit autour une sorte d'écosystème un peu lié à la BD, qui nous amène à agir tout au long de l'année. C'est parti d'un constat très simple. Le festival était installé dans la partie historique de Saint-Enémy, le monastère, la salle capitulaire, un lieu, un écrin magique, hein, un écrin de pierre, comme on en a chez nous. Et juste à côté, il y avait un collège et une école. Et les gamins du collège et de l'école, ils ne voyaient jamais de BD. Ils ne rencontraient pas les auteurs. Ça passait à côté. C'était mi-juillet, certes, mais rien. Donc on est parti avec notre figure d'éducateur pour commencer à créer du lien. Et donc, on accueille chaque année en résidence d'auteur, 3 semaines, 1 mois avant le festival, un illustrateur ou une illustratrice qui viennent pendant une semaine sensibiliser aux 4 coins du département des publics, écoles, collèges, bibliothèques. On travaille aussi avec en relais avec des auteurs locaux, des jeunes illustrateurs créateurs, avec le public de la maison d'arrêt. On travaille avec les publics en situation de handicap. On est aussi présent sur le terrain scolaire tout au long de l'année avec des mallettes pédagogiques que les éditeurs nous aident à mettre en place en nous offrant des BD. La MGEN contribue à l'achat de ces BD et on fait circuler 4 BD écoles, 4 BD collèges dans les différents établissements qui le souhaitent. Les élèves sont alors positionnés comme jury. Ils lisent, ils votent et à l'édition suivante du festival, au mois de juin, c'est eux qui décident donc qui aura ce qu'on appelle le prix jeunesse, prix Canoë Kids. Cette année, il y en aura 2, un Canoë Kids enfant et un Canoë Kids jeunesse ado. Voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et les brindilles sont nombreuses et on essaye de les étirer donc tout au fil du temps. Je ne les ai pas toutes citées, mais on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez.
Et est-ce que l'écriture fait partie des choses que vous voulez faire avancer aussi?
Eh oui, bon creux. Effectivement, on contribue alors modestement à partir de cette sensibilisation qu'on fait auprès des scolaires en mettant à disposition de la BD ou en mettant en contact avec des auteurs, des illustrateurs. On contribue à faire naître des projets de création. Donc ces projets de création peuvent être ponctuels, des BD d'une page, 2 pages, à l'occasion de séjours, par exemple au centre du Ventousé, il y a des séjours BD, où on alterne une connaissance du milieu et une écriture. Et puis là, récemment, comme chaque année à peu près, on accompagne un projet scolaire. Cette année, on a accompagné, dans le cadre d'une classe à projet artistique et culturel, une classe à PAC, l'école d'Ispagnac, l'école Nelson Mandela, l'école publique, qui vient de sortir, je l'ai dans mon cartable, je vous la montrerai, sa BD éditée chez nous. Donc on est éditeur, on cherche les financements, on utilise les réseaux qui sont maintenant constitués autour de nous pour aller jusqu'à l'édition. Et là, on a édité donc une BD qui fait 40 pages, qui a été construite à la fois sur le travail scolaire de l'enseignant et puis en relation avec un professionnel qui s'appelle Gaël Simonet, qui est donc un professionnel de l'illustration et qui a accompagné les élèves une 15aine de séances pour avancer sur ce projet.
Et là, vous les laissez complètement libres de raconter l'histoire qu'ils veulent raconter ou...
Ça, c'est le boulot du professionnel avec l'enseignant. Nous, on est en quelque sorte le facilitateur du projet. C'est-à-dire que c'est nous qui allons chercher les financements, c'est nous qui allons les mettre en relation avec le circuit d'imprimerie, c'est nous qui allons faire en sorte qu'ils puissent avoir des délais d'impression raisonnables par rapport à leur projet. Là, par exemple, les enfants d'Ispagnac seront présents ce samedi 6 avril sur les 48 heures et seront, au même titre que les professionnels, en dédicace. On va faire la même chose au mois de juin. Chaque année, on fait ça. C'est-à-dire que des mômes, ils sont là, immergés avec des pros, et ils ont leur bouquin à eux, et ils dédicacent. Alors, cette année, c'est une BD à 40 pages, c'est chouette. D'habitude, c'est un petit fanzine à 5-10 pages. Mais en attendant, c'est aussi une valorisation de la créativité qu'on peut avoir dans le territoire.
Alors, vous ambitionnez de devenir maison d'édition, mais pour l'instant, vous travaillez avec d'autres maisons d'édition.
Alors, on ne souhaite pas être maison d'édition. Les créations qu'on permet d'imprimer ne sont pas sous ISSN, volontairement, pour éviter le circuit commercial. Elles sont sous diffusion militante et généreuse de la part de ceux qui l'ont créé. Donc, en l'occurrence, là, sur l'école d'Ispagnac, on imprime à 150 exemplaires, je crois, et c'est l'école qui diffuse. Les enfants, quand ils sont en dédicace, mettent une petite boîte devant eux et on donne à votre bon cœur, monsieur, dame, mais pas plus. Il n'y a pas de vente directe hein, dans ce cas-là. Par contre, vous le dites très justement, on est en maillage avec des éditeurs, puisque on est dans cette dynamique d'accompagnement aussi des éditeurs alternatifs. Et donc, les éditions du Larzac, les éditions Mosquito, les éditions Commune Orange, Jargy, etc., sont des partenaires avec qui on va chercher des points d'appui, ne serait-ce qu'en termes d'expertise, quand il s'agit d'aller vers de l'impression. Voilà. Mais on n'a pas, nous, la volonté de devenir une maison d'édition. Pas encore.
Très bien. Alors, peut-être quelques mots. On reviendra forcément sur les 48 heures de la BD tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Peut-être quelques mots sur le festival de cet été qui se prépare. Alors, même si il y a un autre événement avant, tout est prêt.
Rien n'est prêt. Tout avance. Disons que ce qui est le plus important, effectivement, aujourd'hui, c'est de considérer que le pari qu'on fait en relayant l'opération européenne des 48 heures de la BD ne nous met pas en difficulté en concurrence avec l'événement majeur que constitue le festival. Ça, c'est un pari. Donc, c'est le premier message qu'il nous faut arriver à partager avec tout le monde. Les 48 heures, c'est une opération d'ouverture de la BD destinée à des publics qui vont accéder financièrement de façon plus facile à ce monde-là. Le festival, c'est d'abord une fenêtre de visibilité sur la création, sur les auteurs. Une quarantaine d'auteurs sont présents chaque année. Ils sont issus à la fois du public des créations alternatives, mais aussi des créations des gros éditeurs. Cette année, on a un partenariat privilégié avec le gros éditeur de la BD française, c'est-à-dire Delcourt. C'est un événement qui draine non seulement du public lausérien, mais trois types de publics. Un public de proximité, famille, Lozère, etc. Un public d'amateurs curieux, mais de proximité des 5-6 départements qui nous entourent. Et puis les amateurs éclairés qui viennent chercher la dédicace de l'auteur qu'on ne trouve pas et qui sont capables de faire 800 km pour venir au bout du monde, dans les gorges du Tarn, vers chez nous.
Puis vous bénéficiez d'un cadre quand même magnifique. Je veux dire, Saint-Edmy s'apprête à arriver. C'est quand même un très bel endroit pour exposer des BD.
C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans ce petit bout du monde, dans ce Puy-Roc, hein, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait à la Révolution, on arrive à accueillir des auteurs de tout pays qui viennent chez nous pour deux raisons. La première, c'est qu'on les accueille à un moment charnière de l'année. C'est la fin du printemps, c'est avant l'été, c'est le dernier week-end de juin, cette année le 29 et 30, et c'est pour un peu les vacances. Ils se sont tapés le boulot pour sortir leur BD dans les délais pour l'éditeur. Ils se sont offert une tournée de dédicaces un peu contrainte et commerciale au printemps. Et ils arrivent chez nous en roue libre. Et nous, on les accueille en roue libre. C'est-à-dire que c'est d'abord du plaisir. C'est d'abord de la convivialité, de l'échange. Ils viennent dédicacer le samedi dimanche dans une salle, certes. Mais on les accueille dès le vendredi. On les garde jusqu'au lundi. Et là, on se fait plaisir avec eux. On fait un coup de canoë, un peu de balade, un peu de rosé frais, quelques petits restos à droite à gauche, le partage des paysages en début de journée, très tôt, quand la lumière arrive bien. Voilà. Ce qui fait que, petit à petit, le bouche à oreille a circulé. Et donc, ce lieu magique auquel vous faites référence, hein, les Gorges du Tarn, devient aujourd'hui un peu notre signature auprès des auteurs.
Très bien. Ben voilà, le rendez-vous est pris pour les 29 et 30 juin. Et ben, maintenant, ça va être la première chronique de cette émission.
Loz Actuali.
On retrouve Eric maintenant avec une chronique, donc, oui. Et donc pas le Brexit.
Non. En fait, moi, à chaque fois que je me connecte sur mon compte Twitter, je ne vois que des infos sur le réchauffement climatique, la fin de la biodiversité, la montée des populismes et la remise en cause de certaines libertés. Les bateaux de naufragés que personne ne veut accueillir, Ange mort après un contrôle policier par-ci, un œil qui tombe de son orbite par-là, et le summum, un lien vers un article déclarant que la raclette va tous nous tuer, vu toutes les saloperies qu'ils mettent dedans. Je vais bien tout supporter, mais pas la raclette. Hein. Bon, alors j'ai décidé alors de regarder quelle journée internationale on fêtait pour rigoler un peu. Allez, je vous le donne dans le mille. Aujourd'hui, mardi 2 avril, on fête la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter de drôle sur l'autisme ? Sinon, hier, c'était le 1er avril. Ça aurait été plus simple. Quoique, en même temps, bientôt, on ne fera plus des poissons d'avril, mais des plastiques d'avril. Aujourd'hui, c'est aussi la Sainte Sandrine, donc bonne fête, Sandrine.
On prend ce qu'on a. Ouais.
Alors franchement, je n'avais pas très envie de rigoler. Et je me suis même demandé si je pouvais rire de tout. Charlie ou pas Charlie, cette question est devenue ces dernières années obsédante. Elle oppose les partisans de la décence. Il y a des choses sur lesquelles on n'aurait pas le droit de rire, comme la religion ou la Shoah. Et pourtant, l'un des films qui m'a le plus bouleversé est « La vie est belle », dans lequel on voit un père qui fait croire que la vie dans un camp de concentration n'est qu'un jeu. En regardant ce film, je suis passé du rire aux larmes et inversement en un claquement de doigts. Mais ce film a également profondément choqué de nombreuses personnes. Il existe également donc les partisans de l'humour sans limite, qui se voient héros de la liberté d'expression, comme ceux qui citent la maxime éculée de Desproges « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Donc finalement, la limite dans tout cela, c'est quoi ? Parce que le rire est bien l'un des signes manifestes d'une société démocratique. Tant qu'on peut rire de tout sans être inquiété, c'est que la liberté de parole existe encore. Dans ce sens, oui, on devrait pouvoir rire du physique des gens, du malheur des autres, des borgnes, des pingouins mazoutés, des autistes, de Sandrine, des politiques, surtout des politiques, des autres, de soi-même, mais pas trop de moi-même, quand même, du pape, de Dieu. Alors, vous noterez que cette ligne n'est pas forcément citée dans un ordre de préférence et aucunement exhaustive. On peut aussi rire des bouddhistes. On oublie trop souvent de se moquer du Dalai Lama. On peut même exprimer toute une palette de rires. Par exemple, Léa utilise à merveille le rire sarcastique à chacune de mes interventions.
C'est celui-là.
Le rire est libérateur. Il peut parfois désacraliser la bêtise. Trump, si tu nous écoutes, exorciser les chagrins véritables. Et encore plus facilement, les chagrins légers. Mais je crois quand même qu'il faut un peu de temps pour rire de quelque chose qui nous a profondément touchés. Et je me surprends en train de me dire, non, ça je peux pas en rire. Pas tout de suite. Le temps de digérer. Sinon, je vais la vomir, ta phrase faussement drôle sur la mort de mon chat. Ah, voilà, le problème, c'est que l'humour peut être comme une langue étrangère. Pour certains, il faudrait ajouter des sous-titres, en indiquant que c'est pour de rire, le second degré, tout ça. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi les jeunes, ils mettent LOL ou MDR à la fin de leur message. C'est les fameux sous-titres. L'humour est ainsi l'une des choses les moins bien partagées du monde. Ce qui me fait rire ne fait pas forcément rire Émilien. Bon, en même temps, l'humour d'Émilien... Allez, LOL.
Ça, c'est le rire gêné. Voilà.
Et puis, tout n'est pas jeté sur les réseaux sociaux. On peut tomber sur des petites pépites d'humour concernant des sujets ultra importants comme le réchauffement climatique. Par exemple, cette vidéo d'Ariel Dombal qui nous rappelle très sérieusement qu'il faut sauver notre planète. Alors qu'elle est filmée à bord de son jet privé. Bon, en même temps, je n'aurais jamais cru pouvoir mettre Ariel Dombal et sérieusement dans la même phrase. Et puis, pour apprécier toute la subtilité, l'humour de riche, il va falloir que mes cachets à la radio soient un peu plus importants. Voilà, l'humour, c'est comme un exutoire, pour supporter ce qu'il y a de plus bas et ignoble dans l'être humain. Ce n'est pas qu'un simple divertissement, et cela permet d'alimenter le débat, de faire réagir. Sinon, après, je peux aussi me désabonner Twitter.
Ah, ça revient, cette question-là. Bon, merci Eric pour cette chronique. Et, tout de suite, c'est la première coupure musicale avec le choix de l'invité. Et on écoute donc Bob Dylan. Saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you.
Loz Actuali.
Deuxième partie de cette émission, toujours avec Philippe Cogoluen d'Enimi BD, pour parler des 48 heures de la BD. Et donc, c'est une manifestation nationale.
C'est même une manifestation européenne.
D'accord.
Qui est issue de la culture européenne de la BD, ce qu'on appelle la BD franco-belge, la ligne claire, le trait comme on l'a trouvé au début de la BD en Europe, c'est-à-dire un trait très clair, très fin, qui ensuite fait l'objet d'un remplissage, qui a autant de charme d'ailleurs en noir et blanc qu'en couleur, ce qui explique qu'on a beaucoup d'ailleurs de tirés à part en noir et blanc. Donc une dizaine d'éditeurs chaque année, pas toujours les mêmes, se regroupent, ce sont des éditeurs donc francophones, qui se regroupent pour, pendant deux jours, sortir des BD neuves, explicitement publiées à cette occasion, qu'ils piochent soit dans leur répertoire existant, dans leur collection, pour donner envie d'aller découvrir certaines collections, donc c'est des tomes 1. Mais cette année, belle particularité, on a 4 BD qui sont en fait des premières, et pas des one-shot en plus, donc des BD dont la série va continuer ensuite, et qui font l'objet d'une publication spécifique pour les 48 heures, avec le label magique des 2 euros, 2 euros vendus au public, neuf, alors qu'une BD aujourd'hui, si c'est une 40-50 pages, c'est entre 10 et 15 euros, et si c'est un roman graphique ou un roman social, ça peut aller jusqu'à 25-30 euros, puisque ça va jusqu'à 100-120 pages d'illustration.
Alors, j'ai la liste sous les yeux, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, je vais me taire, ce sera la surprise. Mais je vois qu'il n'y a pas de comics.
Non, c'est un choix des éditeurs européens de dire que le comics étant phagocyté actuellement de façon économique par le marché et surtout par les gros éditeurs américains, je ne les citerai pas, mais il y en a qui sont passés récemment au cinéma. Et donc, les éditeurs européens ont serré les coudes et se sont dit, mais on a largement de quoi faire avec la création existante en francophonie. Et donc, on va privilégier dans les 48 heures les éditions francophones. Mais ça n'exclut pas, par contre, des univers très variés. Et notamment, le manga est présent, l'heroic fantasy, le jeunesse, le documentaire et même du roman graphique. Donc, on a une belle palette avec des auteurs pointus. Ce qui veut dire que si le comics n'est pas là, on ne va pas être déçu, il y a de quoi faire.
Justement, je me posais la question pour le manga, parce qu'on pourrait se dire exactement la même chose que pour les comics, c'est-à-dire que le manga, c'est les mangakas japonais ou chinois ou coréens.
Alors ça, c'était vrai il y a, allez, on va dire 10-15 ans. Entre-temps, il y a des auteurs asiatiques tels que Taniguchi ou d'autres qui ont su faire le lien avec la ligne claire, qui ont, par leur voyage, par leur culture, par leur partage, qui ont su s'immerger du talent européen et qui ont su apporter leur talent aux Européens. Et donc, aujourd'hui, des mangakas, il y en a en culture européenne, qui font de l'excellent travail. Et les deux mangas qui sont produits là, cette année, qui sont proposés dans les 48 heures, sont effectivement des auteurs européens, mais avec ce qui sont les caractéristiques du manga, hein, c'est-à-dire une histoire sobre, un déroulé, bien sûr, de la fin vers le début, hein, ce qui est le premier critère pour le grand public. On ne commence pas au début du bouquin, on commence à la fin. Et puis, très souvent, une utilisation dominante du noir et blanc, ce qui permet de tirer quand même les prix. Le manga, on a un peu tendance, nous, dans nos cercles de lecture, à comparer ça à notre Black Le Rock de notre enfance, qui coûtait 50 centimes ou 1 franc à l'époque, et qu'on voyait une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Le manga est à peu près dans ce creux-là en termes économiques. Mais par contre, on y retrouve, une fois encore, des auteurs de culture européenne, avec des thématiques qui sont celles d'un public ado, jeunes adultes, avec des thématiques posées sur la relation à l'autre, sur l'existence, sur l'univers qui m'entoure, les questions que je me pose sur moi-même, etc. Quoi.
Et vous avez la possibilité de choisir les auteurs que vous faites venir, ou c'est les maisons d'édition qui vous proposent ?
Les deux, c'est-à-dire que dans les 48 heures, il y a trois cercles en fait. Il y a un premier cercle qui sont les 10 BD qui sont offertes par les éditeurs à 2 euros. Celle-là, on n'a pas le choix, c'est européen, c'est posé, c'est la même date par tous, c'est les mêmes BD. Elles nous sont livrées
200
000
directement. 200 000 exemplaires dans 1500 librairies et en Lozère, c'est essentiellement la librairie de Stéphane Savageol à Marvejol et Le Rouge et le Noir à Saint-Chély.
C'est ça. Et nous, le petit libraire du village qu'on a réussi à dynamiser cette année, le veilleur de nuit, qui se lance du coup dans la diffusion de BD grâce à cette opération. Donc, pour revenir sur la question que j'ai oubliée.
C'était de savoir si c'est vous qui pouviez choisir les auteurs.
Donc, les trois cercles. Le premier cercle, on vient d'en parler, c'est la liste des BD édités. Le deuxième cercle, ce sont les auteurs que nous, on va inviter comme on le souhaite. Donc cette année, on a des invités, comme on le fait pour le festival, mais le but, ce n'est pas d'en avoir 40, là, puisqu'on met la focale d'abord sur ces BD mises à disposition pas chères. Et puis, troisième cercle, c'est pour les enseignants, les bibliothèques et les centres de loisirs, la possibilité de piocher dans une liste de 30 BD ados et 30 BD enfants, d'y cocher 10 cases sur 10 éditeurs différents. Bon, là, c'est un peu le jeu de la diffusion commerciale des éditeurs. Et ce, gratuitement. Sauf que, pour que ça fonctionne, il faut que les gens viennent physiquement sur le lieu de l'événement. Et donc, on sera le relais de ce dispositif ce samedi, 6 avril, à Saint-Élémy, à l'espace Burle. Et donc, enseignants, animateurs de bibliothèque ou responsables de centres loisirs pourront venir. Et là, ils piocheront dans ce troisième cercle, qui est un cercle de grande qualité, notamment sur les ados. Les 30 BD qui ont été sélectionnés par les éditeurs font partie du haut de gamme des BD actuels pour les ados.
Au niveau national, il est annoncé le chiffre de 40 000 BD offertes justement aux établissements scolaires, associations, etc.
Tout à fait. Le relais se fait à l'occasion, donc les enseignants éducateurs ou animateurs viennent choisir et ensuite leur est mise à disposition le lot correspondant à leur choix, une dizaine de BD gratuites. Ce qui est une façon de démarrer parfois la BD dans une classe ou la BD dans une bibliothèque avec un coin BD dans une petite bibliothèque, voire dans un centre de loisirs. À ce sujet d'ailleurs, j'en profite, dans notre écosystème, on a un partenariat qui s'est ouvert cette année avec Jeunesse et Sport pour de la diffusion de nos mallettes BD dans les centres de loisirs durant l'année. Et cet été, comme les écoles et les collèges ne s'en serviront pas, elles vont partir dans les centres de vacances pour qu'elles puissent aussi vivre l'été.
Alors, les 48 heures de la BD en fête à Saint-Élémy, c'est les 5 et 6 avril. Quel est le programme de ces deux jours à Saint-Élémy?
Alors, on travaille en deux jours. Là aussi, on est dans le cadre national. Certaines opérations maintenant se déploient jusqu'au dimanche 7. Nous, comme c'est la première fois qu'on fait le relais, on y est allé modestement. Le 5, on est dans le cadre institutionnel fixé par les 48 heures, c'est-à-dire du travail avec les scolaires. Et le 6, c'est du grand public. Donc, c'est du jeu, c'est de l'animation, c'est de la dédicace, c'est de la vente directe. Il y a un bouquiniste pour compléter avec un budget raisonnable. On va trouver des BD de 1 à 7, 8 euros. Donc, celui qui est collectionneur et qui cherche sa BD, il va la trouver. Et celui qui n'est pas collectionneur, mais qui n'a pas trop de sous, bah, avec 20 euros, il va repartir avec un lot de BD sympa pour quelques semaines. Et puis, on a des ateliers. Deux professionnels de l'illustration vont animer des ateliers, enfants et adultes, sur créer une BD ou mettre en couleur une BD. Ça, c'est le samedi pour le grand public. Et le vendredi, c'est pour les scolaires.
Alors, les détails pratiques pour le samedi, peut-être pour le grand public. Donc, de 9h30 à 18h, c'est ça?
Oui. Alors, le vendredi, en deux mots, on mobilise, comme toujours, la totalité des publics jeunesse qui nous entourent. Donc, ça veut dire à la fois les petits de l'école sur le village, mais aussi les villages alentours. Et puis, la liaison école-collège. Donc, deux jeux ont été montés. Un qui est assez basique sur l'univers de Tintin, qui va permettre une chasse au trésor pour les tout-petits.
Les tout-petits, ils connaissent encore Tintin?
Certains le connaissent. Quand on fait lever le doigt, c'est assez intéressant comme question, parce que quand on reçoit un illustrateur en résidence, chaque année, un de leurs réflexes aux illustrateurs professionnels, c'est de faire lever le doigt qui a déjà lu de la BD dans une classe. Là, il n'y a pas de problème, tous les doigts se lèvent. Et après, c'est mais quelle BD vous lisez? Et là, on est sur du franco-belge. Majoritairement, effectivement, les grandes BD classiques, Tintin, Astérix, Lucky Luke, etc. Même sur les publics très jeunes. La BD diverse avec les typologies dont on parlait tout à l'heure, elle arrive plus tard, où elle arrive sur des contacts avec des milieux culturels type bibliothèque ou autre. Donc, pour revenir sur le vendredi, une chasse au trésor autour de l'univers de Tintin pour les petits, et puis une quête médiévale, où on se déplace dans le vieux village, et là, on va récupérer des indices pour aider Enimi, qui est pourchassé par le drac, qui veut lui piquer sa bibliothèque du monastère, et sa bibliothèque de BD, bien entendu. Et donc, les équipes sont là successivement pour aider Enimi à sauver sa bibliothèque de BD. Le samedi, pour y revenir, donc 9h30, 18h, et plus si affinité, comme toujours. Hein, au festival, on ferme rarement à 18h précises, parce que bah, s'il fait beau, on aime descendre à Saint-Élémy pour le plaisir, on en profitera pour boire un coup ou dîner sur place. Et donc, souvent, on est capable d'allonger un peu l'après-midi. Voilà. Les rendez-vous, il n'y en a que deux qui sont fixés. Les autres sont ouverts tout au long de la journée. Les dédicaces, c'est ouvert. Les animations, c'est ouvert. Les expos, les ventes sont ouvertes. Les seuls rendez-vous qui sont fixés, c'est les ateliers, qui nécessitent, pour ceux qui le souhaitent, une inscription auprès de l'Office du tourisme, au 04 66 45 01 14. J'en profite pour glisser. Et ces ateliers sont de 10 à 12 le matin et de 14 à 16 l'après-midi. Deux ateliers différents, un atelier enfant, un atelier adulte, avec Gaël Simonet, artiste local, qui a contribué à la BD des élèves d'Hispaniac, et Eric Hupsch, un habitué du territoire, même s'il est aujourd'hui installé du côté de Perpignan, qui, lui, animera aussi un atelier. On a fait deux ateliers enfants et adultes différents, parce que à l'occasion du festival, on anime des ateliers tout public, et ce n'est pas toujours facile pour les illustrateurs, parce que les demandes sont assez diverses. Voilà.
Donc là, les deux ateliers, ce sont donc des ateliers de création. J'imagine qu'il faut y passer la journée.
Non, 2 heures.
Juste, c'est soit le matin,
en 2 heures, ouais. On a des artistes qui sont un peu pédagogues. C'est quand même pour ça aussi qu'on les choisit. Et donc, ils sont capables, avec des lanceurs, ce qu'on appelle des petits lanceurs, c'est-à-dire soit un strip, un 3 cases, soit un 6 cases, avec un petit personnage qu'on crée, un univers qu'ils proposent, ou plusieurs univers au choix pour celui qui arrive, de permettre à quelqu'un, même s'il n'a jamais tenté ça, de se faire une petite planche. Alors, il ne s'agit pas de faire une BD de 40 pages, bien sûr, mais une planche ou deux, c'est réaliste en 2 heures. Après, selon la capacité de créativité par rapport au scénario, selon le talent graphique, on peut même aller jusqu'à la mise en couleur en 2 heures, pour certains.
D'accord, donc on rappelle, pour ces deux ateliers, il faut s'inscrire auprès de l'Office de tourisme au 04 66 45 01 14.
Juste un petit mot sur l'affiche. C'est une affiche spéciale pour les 48 heures de Saint-Élémy.
Oui, tout à fait. On a négocié avec le dispositif européen. On est parmi les seuls à faire ça. Parce que, bon, Enimi BD est maintenant quand même connu sur le monde de la BD comme quelqu'un, une association qui porte chaque année une illustration de qualité. Vous les avez sûrement repérés au fil des années. Certains les collectionnent. Et donc, on n'a pas voulu échapper à notre genre. On a voulu qu'on ait une illustration identitaire. Identitaire deux fois. Identitaire parce qu'elle reprend un élément du paysage. Ça, pour nous, c'est une clé, avec notre charte graphique. Là, en l'occurrence, c'est un des hameaux de la commune de Saint-Élémy, Saint-Chély-du-Tarn. Et puis, identitaire parce que c'est une relation privilégiée qu'on établit avec un auteur. Et là, en l'occurrence, cette année, c'est pour nous une façon de mettre le pied à l'étrier d'une jeune illustratrice qui n'est pas encore professionnelle, qui est sur l'école de design à Lyon, mais qui, pour des raisons personnelles, est en formation en Lozère cette année, et qu'on a croisé dans des univers comme la Lozère permet de multiplier. Et donc Julie Morin, en l'occurrence, s'est essayée à cet exercice particulier de relier le paysage à l'illustration BD, en nous apportant la fraîcheur d'une illustration manga, en plus. Donc voilà, c'est une fois encore une signature d'Enimi BD.
Donc pour ceux qui n'ont pas l'affiche sous les yeux, parce que comme ça c'est un peu dur à imaginer, donc en arrière-plan, on a le hameau près de Saint-Enimy, et devant, on a donc une petite fille avec un deltaplane, version asiatique, on va dire.
Voilà. Oui, elle est dans l'univers manga, c'est-à-dire que quelque part, c'est à mi-chemin entre le costume et puis l'imaginaire, le monde dont on rêve, et le personnage évolue entre les deux. C'est un peu comme nous, on évolue quand on a envie de s'échapper.
Bon voilà, le rendez-vous est pris pour ce week-end. Donc vendredi, c'est les scolaires qui en profiteront. Et samedi, c'est ouvert à tous. Donc à l'espace Burle, à Saint-Enimy, de 9h30 à 18h. Avec, on le redira, des ateliers de création de BD avec des artistes professionnels. Et donc, il faut s'inscrire auprès de l'Office de tourisme. Tout de suite, la chronique de Léa. Et on va parler féminisme.
Loz Actuali.
Et c'est parti, Léa.
Alors, les petits trucs du féminisme, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Déjà, on va reprendre la définition de féminisme, parce que pour certains, Et certaines, j'ai l'impression que c'est pas encore très bien acquis. Alors désolé, petit retour à l'école. Le féminisme, c'est simplement le fait de croire en l'équité homme-femme et de se battre pour ça. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Alors il y a beaucoup de monde qui critique le côté très politisé du combat et de fait, le féminisme est une idéologie politique. Mais c'est un peu comme vouloir sauver la planète, si vous voulez. Il y a des politiques qui sont quand même censées mieux passer que celles de Staline, quoi. Quand on se bat pour le bien commun, est-ce qu'on mérite réellement de se faire engueuler? Ça, c'est encore une autre question. Alors, on me répondra que le féminisme, c'est pas le commun qui prime, mais la femme. Sauf que non, si on reprend ma définition, il y a bien homme-femme dedans. Parce que si on avance dans la déconstruction du modèle féminin, il n'y a aucune raison que les hommes n'en bénéficient pas. Pour résumer, s'il est socialement acceptable qu'une femme ne s'épile pas, il est socialement acceptable qu'un homme pleure ou ne sache pas monter une table. Bref, démonter des clichés comme des tables, c'est bon pour tout le monde. Je me suis un peu attardée sur cette définition, mais c'est quelque chose qui me paraissait important pour comprendre la suite. On revient donc aux petites choses de ce féminisme. Ces petites choses, c'est un phénomène très courant sur les réseaux sociaux, par exemple, et qu'on peut résumer par « non, mais il n'y a pas autre chose de plus urgent, franchement ». Exemple, un article de Libération sur le manspreading interdit dans le métro parisien. Commentaire trouvé en dessous de cet article. « Non, mais il n'y a pas d'article plus intéressant à écrire Libé au lieu de propager la propagande féminazie. Regardez un peu ce que fait Macron et sa clique. Please !» Voilà, c'est en fait une échelle de mesure de l'importance des combats menés au nom de l'équité homme-femme. Lutter contre l'excision, oui. Accrocher des images de vagins partout dans la rue à Paris, non. Voilà. On a comme ça quelques centaines ou milliers de personnes qui pensent pouvoir hiérarchiser ce qui est bon ou pas pour le féminisme. Il y a autant d'hommes que de femmes, hein, d'ailleurs, dans ces commentaires. Et pour vous montrer à quel point c'est ridicule, je vous donne un exemple. Est-ce qu'on dirait la même chose concernant l'environnement ou le handicap? Non, dans les deux cas, la communication autour de ces deux combats, c'est plutôt que chaque geste ou chaque don, aussi minime soit-il, compte. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même type de réaction pour le féminisme? Eh bien, déjà, il y a une notion de perdant-gagnant qui n'existe pas dans les deux autres combats que j'ai cités. Quand on donne pour le Téléthon, certes, on perd de l'argent, mais on gagne un sentiment de fierté, on a l'impression d'avoir été utile. Quand on recycle, on ne perd rien si ce n'est un peu de temps. Mais dans le féminisme, il persiste ce sentiment d'enlever systématiquement quelque chose à l'homme pour le donner à la femme. Alors que, de fait, on n'enlève rien, on transforme juste un privilège en acquis social équitable. Je suis désolée, c'est long. Oui, ça demande un peu de concentration, mais je vais continuer. Et ce que beaucoup appellent des petits combats sans importance sont en fait un des premiers pas vers cette équité. Que nous dit par exemple le man-cutting? Eh oui, I'm spreading, le man-cutting, voilà, on aime l'anglicisme. Donc le man-cutting dans notre société, cette manière qu'ont les hommes de souvent couper la parole aux femmes ou de hausser la voix pour qu'elles se taisent d'elles-mêmes.
C'est pas vrai, ça arrive jamais.
Ça arrive tout le temps, voilà, merci Eric. Merci de participer, c'est sympa. Donc pour beaucoup, ça n'a aucune importance. Par exemple, ce que vient de faire Eric, ça, on dirait il y a de l'interaction dans l'émission, c'est pas très grave. Et de fait, là, c'était plutôt une blague. Et voilà, on ferait mieux de se concentrer sur les mariages forcés ou encore les enfants qui se font violer. Mais en fait, c'est une habitude très brutale et oppressante quand on est une femme et ça montre la place qu'on nous attribue dans le débat public. Parce que comment faire avancer nos droits si on peut pas faire juste entendre notre voix dès le départ? C'est impossible. Je vais vous prendre un autre exemple. Féru de sociologie que je suis, j'ai lu il y a quelques temps une étude sur la place des femmes dans l'espace public. L'auteur de cette étude est évidemment une femme. Elle disait avoir observé l'habitude des femmes de dévier de trajectoire lorsqu'elles rencontraient quelqu'un dans la rue. Habitude que très peu d'hommes semblaient avoir, elle a alors décidé de faire une expérience et de ne plus dévier de son chemin. Eh bien, ce tout petit changement, cette toute petite chose, est devenue une énorme source de conflit dans sa vie. Pendant une semaine, elle n'a percuté que des hommes, certains l'insultant en lui demandant pourquoi elle ne s'était pas écartée. L'auteur n'a rencontré aucune femme sur son chemin, aucune, entendez-moi bien. Voilà pourquoi il n'y a pas de petit combat, parce que l'équité, elle se joue partout et sur tous les tableaux. J'ai moi-même tenté l'expérience que je vous ai décrite parce que, bon, ça coûte pas beaucoup d'efforts et puis, ma foi, c'est assez marrant. Bon, j'avoue qu'à Mende, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut déjà croiser la route de quelqu'un. Mais voilà où j'en suis. En plus d'un mois, je me suis fait bousculer au moins 15 fois, toujours par un homme, insulté 3 fois.
Toujours par le même.
Toujours par le même. Il me suit nuit et jour, c'est insupportable. Et on m'a constamment lancé des regards circonspects, genre, bah, pourquoi elle se pousse pas celle-là, je comprends pas. Mais si un jour quelqu'un s'arrête et me demande pourquoi j'ai pas bougé, je serais ravie de lui répondre et de lui demander pourquoi lui n'a pas bougé. Parce que le féminisme, ça commence par ça, les amis, par une prise de conscience inspirée par des petits trucs de tous les jours.
Merci Léa pour ce petit coup de gueule. On a l'habitude, tout va bien. Mais c'est important de s'exprimer, c'est pour ça qu'on...
Et de rappeler certaines choses.
Et de rappeler certaines choses. Alors, on va avancer un petit peu la pause musicale avec un choix de l'invité. Et alors, c'était dans l'univers manga. Alors, c'est Léa qui a choisi. Alors, tu vas
non,
nous dire.
C'est l'invité qui a choisi à travers moi.
Voilà.
C'est Hokuto no Ken. C'est l'opening de Ken le Survivant, un animé très connu quand même.
Allez, on écoute. Et je vous dis à bientôt. Et je laisse la main à Léa pour la fin de l'émission.
Et on se retrouve pour la deuxième partie de Loz Actually. Vous avez remarqué, c'est plus vraiment la voix de Guillaume. On est toujours avec notre invité Philippe Kogoluen. Bonjour, bonjour.
Oui, et bonjour à tous à nouveau.
Je redis bonjour, et oui, c'est la deuxième partie, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Rebonjour Eric.
Rebonjour.
Et rebonjour Emilien. Allez, on est parti. Donc tout de suite, c'est le portrait chinois. Alors, si vous étiez un animal...
Ah, un animal, c'est le castor. Le castor qui est un bâtisseur aquatique et qui se situe toujours entre deux mondes.
Vous savez quoi ? À chaque réponse, je vais vous demander une BD aussi. Alors, une BD sur le castor.
Ah, alors là, c'est
ça se complique.
Ouais, j'en ai une, mais j'ai pas son titre en tête. C'est une BD pour enfants. C'est d'ailleurs une BD assez originale. Ah, si, c'est Anatole. Anatole, édition Commune Orange. C'est une BD sans bulles, sans texte, pour les tout, tout petits.
Sinon, j'allais dire Yakarim.
Il est où le castor ? Il y a peut-être une histoire de Yakari avec un castor. Alors, les loisirs ?
Loisirs liés à l'eau. Tout ce qui est eau. Donc que ce soit le plaisir de nager, le plaisir de faire du canoë, descendre éventuellement des canyons, de l'eau. De l'eau, toujours de l'eau.
Un endroit préféré en Lozère ?
S'il y a de l'eau. Le Tarn, la plus belle. La
vous
plus
êtes
belle
pas
rivière.
Loin en plus. Ben oui. Un endroit préféré dans le monde ?
Ben, les endroits où il y a de l'eau, encore et toujours. Mais là, un endroit très particulier, dont j'ai mémoire, c'est en Alaska. C'est au pied du McKinley. Une zone humide où on a passé des heures, des nuits entières à surveiller les aurores boréales, les pieds dans l'eau, l'humidité qui remontait, le froid, mais une impression de monde particulier dans lequel on flotte, avec des images et à la fois des températures autres.
Une drogue favorite ?
La bouffe.
Ça va, c'est pas encore trop hardcore. Une citation, alors ça c'est un petit peu compliqué, peut-être une que vous avez...
Ouais, alors je sais pas si c'est une citation, mais c'est quelque chose qui effectivement me permet parfois d'avoir des repères. Si on ne faisait que ce que l'on sait faire, on ne ferait pas grand-chose.
Une qualité ?
L'endurance, l'opiniâtreté.
Et un défaut ?
Têtu. Pénible.
Il faut bien ça pour monter un festival.
Tout à fait.
Un plat préféré, du coup, de votre drogue préférée ?
Ah ben, un plat lié à l'eau, une écrevisse. Une petite écrevisse, là, juste bien revenue avec une petite gnole qui permet de la flamber. On y rajoute quelques tomates bien fraîches, on laisse mijoter tranquille, les saveurs se mélangent et ça y est, quoi. On est dans la rivière.
Un verbe ou un mot ?
Déguster. Déguster à la fois ce qui passe par la bouche, mais déguster aussi le plaisir de l'autre, le plaisir de la rencontre, le plaisir de la découverte. Déguster, ouais.
Et là, ça va être facile, un héros de fiction ? Ou peut-être pas, ceci dit ?
Non, parce que c'est compliqué de choisir. C'est compliqué. Non, j'irai, allez, de façon un peu simpliste, sur Kalec, le héros de Trump qu'on va honorer cette année. J'en parlais tout à l'heure à travers l'œuvre de Patrick Jussomme, qui est un héros maritime. Un héros qui a su bourlinguer aux quatre coins du monde et chaque fois faire des rencontres extraordinaires.
Et enfin, un rêve ?
Un rêve ? Rester la possibilité, continuer à pouvoir rêver tous les jours à voix haute.
Voilà, c'était le portrait chinois de notre invité. Tout de suite, on retrouve l'info inutile avec Emilien.
Loz Actuali.
Alors effectivement, la distance, c'est bon, Emilien, on va pouvoir y aller. Tu vas nous parler des beaux quartiers parisiens. Qu'est-ce qui se passe dans les beaux quartiers parisiens ?
Eh bien, les beaux quartiers parisiens se situent surtout à l'ouest, car au XVIIIe et au XIXe siècle, les vents dominants venant de la mer poussaient les suies et les fumées vers l'est Paris et épargnaient ainsi les beaux quartiers. Depuis, la situation est restée la même.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les quartiers parisiens sont toujours restés à l'ouest.
Le choc de pas la Macarena, mais de la Maracana.
Le 16 juillet 1950 avait lieu la finale de la Coupe du Monde entre le Brésil, le très grand favori, et l'Uruguay. Ce match est l'un des plus célèbres de l'histoire du football. Contre toute attente, l'Uruguay renverse la Seleção, qui n'est autre que le Brésil, alors que cette dernière évoluait dans son mythique stade de Maracana. Avant ce match, personne n'avait prévu la victoire de l'Uruguay comme hypothèse probable, si bien qu'aucune cérémonie n'avait été prévue en cas de victoire uruguayenne. Seule une cérémonie en portugais et à la faveur du Brésil fut organisée. Cette défaite donne lieu à d'énormes conséquences puisqu'elle entraîne tout d'abord une vague de suicides dans tout le pays ainsi que dans le stade. 3 personnes meurent dans le stade d'une crise cardiaque. De nombreux joueurs brésiliens mirent fin à leur carrière internationale suite à cette défaite. Traumatisée, l'équipe du Brésil ne disputera plus aucun match pendant 2 ans. Depuis ce drame, le Brésil n'évolue plus en blanc mais en jaune et en vert.
C'est pour ça qu'ils gagnent plus grand-chose aussi. Des informations sur l'alcool, est-ce que tu vas arriver à me dire quelque chose que je ne sais pas déjà ?
Je vais essayer. Donc pour commencer, 10% des revenus du gouvernement russe proviennent de la vente de la vodka. De plus, il est estimé qu'à chaque instant dans le monde, 0,7% de la population est sous. Ce qui représente tout de même environ 50 millions de personnes ivres en même temps. Plus que la population entière de l'Espagne. On rappelle cependant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Est-ce que tu fais partie des 0,7% actuellement ?
Pas tout de suite.
Ça marche. On revient au foot avec le plus grand stade du monde ?
Le plus grand stade de football au monde, et d'ailleurs le plus grand stade tout court au monde, ne se trouve ni en Europe, ni au Brésil, ni même en Chine. D'une capacité de 150 000 places, celui-ci est basé à Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord. Il possède une surface de 207 000 m². L'affluence record a été atteinte en 1995 à l'occasion d'un spectacle de lutte professionnelle. 191 000 personnes assistèrent à cet événement.
Oui, enfin ça c'est ce que dit le gouvernement nord-coréen. On va passer tout de suite à la revue de presse, merci beaucoup Émilien.
Donc on peut y mettre trois fois ou au moins deux fois la Lozère quoi.
Effectivement, ouais.
On va dire deux fois.
En même temps, bon, pas beaucoup de monde en Corée du Nord non plus quoi, donc... La revue de presse, Eric, d'ailleurs, tu nous as sorti quoi ?
Ouais, attention, spoiler. Oui, la mention est mise car je vais vous révéler rien de moins que la fin de la série de Game of Thrones. Alors maintenant que débute la dernière saison de l'une des sagas les plus regardées au monde, je vais pouvoir vous dire qui va mourir, mais surtout, après ces 8 années de lutte télévisuelle, qui va s'asseoir sur le trône de fer ? Trône de fer, je sais pas, ça sonne pas super.
Moi, je regarde pas, donc...
Il est encore temps de passer votre chemin. Alors, les révélations que je vais vous faire ne proviennent ni des scénaristes, ni même de l'imagination de l'auteur, mais bien d'un algorithme. En fait, il s'agit ni plus ni moins que d'une explication la plus rationnelle sur le destin de chaque personnage au vu de toutes les informations jusqu'ici disponibles. Bon, en même temps, vouloir associer la rationalité à Game of Thrones, il n'y a que les savants pour essayer de le prouver. Alors, les nouvelles intelligences artificielles prétendent ainsi détrôner l'esprit humain en matière d'imagination. Alors, concernant Game of Thrones, le but est de calculer le niveau d'influence de chaque personnage encore en vie et de connaître l'importance des personnages en termes de réseau. Ensuite, ils ont calculé les probabilités pour que chaque personnage meure ou non avant la fin, sachant que depuis le début, plus de la moitié des 330 personnages importants sont tombés, et seulement 2 de mort naturelle.
330 personnages importants ?
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que je regarde pas, maintenant je comprends.
Enfin, ils sont inspirés des essaims d'abeilles. Cela permet de voir comment un groupe d'individus se comporte face à une question et de voir comment leur réponse influence les autres. Et cela permet de réaliser des prédictions assez bluffantes et toujours plus performantes. Donc le personnage qui a le meilleur réseau, mais en même temps qui possède assez de chances de rester en vie et qui est le favori de l'essaim d'abeilles n'est autre que Jon Snow.
Il est déjà mort en même temps, Jon Snow. Donc, oui, mais il est mort plus ou moins une fois. Ils peuvent pas refaire deux fois.
Pas. Non.
Il y a que ça que je connais. Je regarde les réseaux sociaux.
C'est lui qui va vivre jusqu'au bout. C'est lui qui va être sur le trône avant la fin. Donc après, si la série fait mentir les algorithmes, cela pourra aussi signifier que les scénaristes ont décidé finalement de ne pas suivre leur propre logique.
Game of Thrones, de toute façon, on sait jamais ce qui peut se passer. Pas sûr que l'intelligence.
C'est un article dans Science et Vie. Il y a vraiment des savants qui ont fait ça, mais qui après peuvent développer les algorithmes sur d'autres choses. Ouais.
Ah oui, peut-être plus intéressant que Game of Thrones. Du coup.
Mais à la base, comme ça permet d'être financé.
Est-ce qu'ils peuvent développer quelque chose sur le Brexit ? Parce que moi, je vais parler de ça, on s'en sort plus, donc peut-être qu'ils peuvent nous sortir la solution avec leur intelligence artificielle. En tout cas, hier, lundi 1er avril, c'était pas un poisson d'avril, mais il y a des activistes... pro-environnement qui sont allés à la Chambre des députés en plein milieu d'une discussion sur le Brexit. Donc, messieurs, dames, on respecte votre engagement, on l'aime et on l'admire même beaucoup. Mais s'il vous plaît, on a vraiment besoin de s'en sortir de ça. Alors, les députés, c'est marrant parce qu'ils ont vu ces hommes et ces femmes très peu habillés, on va dire, devant eux. Et ils ont continué de discuter comme si de rien n'était. Voilà, une scène un petit peu absurde à l'anglaise, comme on les aime, quoi. C'est digne du Monty Python, je vous conseille d'aller voir les photos. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Philippe Kogolien, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous de nous avoir donné un peu de place.
On rappelle donc l'événement de ce week-end.
Les 48 heures de la BD, le relais donc lozérien avec animation, atelier, dédicace et bien sûr les ventes de BD à 2 € et les BD gratuites pour les éducateurs, les bibliothécaires et les enseignants.
Quant à nous, cette émission sera rediffusée jeudi à 19h et mardi à 12h30. On se retrouve dans 2 semaines en direct sur 48FM. Salut à tous.
À bientôt.
Salut.
Au plaisir.
Loz Actualité.